un ouvrage de l'ancien conseiller de Barack Obama et de Bernie Sanders, James Kenneth Galbraith, qui rejoint notre bibliothèque aujourd'hui. L'État prédateur, paru en 2009, montre comment la gauche s'est convertie à l'idéologie du marché libre, quand la droite, elle, y a renoncé. Et pour en parler, nous avons invité Aurore Laluc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, et co-directrice de l'Institut Veblen. Alors pour James Galbraith, qui est par ailleurs professeur d'économie à l'Université du Texas, le marché libre est un mythe qu'il s'attache à démonter dans la première partie de son ouvrage. C'est un dieu qui meurt, pour reprendre son expression, mais qui ne meurt peut-être pas assez vite à son goût, Aurore Laluc.
Oui, ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il va... En fait, Galbraith, il part de Katrina. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet ouragan qui va dévaster une digue du côté de la Nouvelle-Orléans
en 2005
et qui va inonder toute cette partie des États-Unis et qui va mettre en évidence le mythe autour du libre-marché. C'est-à-dire que cette digue n'a pas été entretenue. On est dans l'économie la plus riche du monde, les infrastructures ne sont pas entretenues et ça met en évidence aussi cette catastrophe, la façon dont les États-Unis prennent ou ne prennent pas soin de leur population. Pour lui, c'est quelque chose de très marquant. Il va partir de là pour son livre. C'est comparable à Tchernobyl pour lui. Tchernobyl, c'est vraiment le moment qui va dévoiler l'imposture de l'économie et de l'État soviétique, qui était censé être très très doué pour prendre soin des infrastructures et qui encensait le bien-être, la question sociale, le peuple, etc., etc. Et on va voir avec Tchernobyl que non, ils savent pas prendre soin de leurs infrastructures. Et ils ne prennent absolument pas soin de leur population. Il part de ce constat-là. Pour lui, Katrina, c'est le Tchernobyl américain. C'est pas le Tchernobyl du communisme, c'est le Tchernobyl du libre-marché. Et il va essayer de briser cette image du libre-marché, montrer en quoi c'est une imposture, ce sont des éléments de langage. C'est une croyance, un conte qu'on raconte aux enfants pour voir leurs yeux briller le soir. Mais entre adultes, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que c'est entièrement faux.
Mais un conte en lequel la gauche s'est mise à croire,
oui,
alors que la droite, elle, a cessé d'y croire de façon un peu paradoxale.
Exactement. Et c'est intéressant dans son livre parce qu'en fait, il parle de son parcours. Il explique qu'il était, il travaillait notamment à la Chambre des représentants et au Congrès, et il voit arriver toute cette génération dans les années 80, très très proche de Reagan, qui effectivement croit. On est vraiment dans le domaine de la croyance, de l'utopie, croit aux forces du marché, au libre marché, etc. Il se met même à douter. Il se dit, mais ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Lui, il a l'impression d'être un espèce de casseur d'ambiance en expliquant que non, ça marche pas comme ça, l'économie et la société. Si on veut que ça avance, faut faire totalement autrement. En fait, il s'aperçoit que quand ces personnes arrivent au pouvoir, elles font totalement l'inverse de ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de libre marché. On a un État qui est en fait extrêmement présent. Et par contre, on a une réorientation des dépenses de l'État. On a une réorientation totale, une capture même de l'État au profit finalement d'une certaine classe sociale. Donc il voit bien cette entreprise de mensonges, de mythes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la gauche est démocrate. Eux sont totalement tombés dans le piège. C'est-à-dire qu'ils sont dominés intellectuellement. Ils pensent effectivement que la libre concurrence, le libre marché, c'est la réalité de la règle économique et que par contre, il faut mettre quelques doses de social par-ci, par-là. Mais ils se sont fait complètement avoir.
Et ce que démontre Galbraith, par exemple, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les conservateurs ne réduisent pas les dépenses une fois arrivés au pouvoir.
Exactement, et c'est là toute l'entourloupe. C'est-à-dire que dans ce livre, c'est ça qui est intéressant, il prend le concept de libre marché au sérieux. Et ils disent, allons-y, regardons s'il y a vraiment du libre marché. Qu'est-ce qu'on observe? Pas de réduction des dépenses publiques. Quand la droite ou les conservateurs sont au pouvoir, il n'y a pas de réduction des dépenses publiques, voire il y a même une hausse, souvent. Pas de libre marché, pas de libre concurrence, c'est-à-dire que la mondialisation n'a jamais été aussi contrôlée qu'aujourd'hui. Il y a une multitude d'accords, donc on ne peut pas parler de concurrence globale du tout. Donc oui, effectivement, il montre bien à quel point tout ça, ce sont des éléments de langage pour faire passer d'autres politiques.
Et c'est en cela que, selon lui, le marché libre dissimule un État prédateur.
Exactement.
Et là-dessus, il s'inspire en particulier de Thorstein Veblen. Pour lui, c'est le génie de la science économique américaine au début du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que cet État prédateur dont il parle ?
Alors, l'État prédateur, effectivement, c'est une source d'inspiration de Thorstein Veblen. Vous savez, les Galbraith, c'est père et fils, ce sont deux économistes. Il y a John Galbraith, qui était proche de Kennedy, conseiller aussi de Johnson. Et puis, il y a le fils, James. Et tous les deux partagent un amour pour Thorstein Veblen. Veblen, ce qui est intéressant, c'est que c'est un économiste qui ne s'intéressait pas au marché. Il s'intéressait à la société. Et c'est parce qu'il s'intéressait à la société qu'il s'intéressait au marché. Et pour Veblen, il y avait, au sein de la société, des instincts d'adhésion, des instincts de domination et des instincts de prédation. Et il y avait une sorte de combat, de lutte entre ces différents instincts et ils se cristallisaient, se sédimentisaient au sein des institutions. Et là, en fait, c'est la prédation qui va gagner, qui va remporter justement au sein de ces institutions la bataille. Et c'est John, en fait, Galbraith, qui, à l'hôpital, va dire à son fils, c'est fait partie de ses dernières paroles, en fait, ses dernières visites, tu devrais écrire un livre là-dessus. Sur l'État prédateur, c'est-à-dire la façon dont l'État, en fait, va collecter les richesses globales et les mettre finalement beaucoup plus au service d'une petite classe sociale plutôt que de la mettre au service du bien commun. C'est-à-dire qu'il fait l'inverse de ce pourquoi il a été créé.
Et non seulement une petite classe sociale, Aurore Laluc, mais aussi la frange la plus réactionnaire. Et c'est aussi cela qui pose problème, c'est-à-dire que tout cela se fait aussi au détriment des milieux d'affaires les plus innovants et les plus progressistes.
Exactement, c'est-à-dire qu'on voit encore une fois à travers des images très chic et modernes, libéralisme, de liberté, d'innovation, etc., une capture de l'État au profit à la fois des agents de l'État, des fonctionnaires, à la fois des élus et à la fois des entrepreneurs, finalement les plus conservateurs, qui ont intérêt à ce que ça continue à fonctionner comme ça, parce que finalement ils mettent les ressources de l'État et les ressources des citoyens américains à leur service.
Et alors comment expliquer, malgré tout ce que dénonce Galbraith, que les États-Unis aient réussi à éviter un effondrement économique et social ?
Ça dépend ce qu'on entend par effondrement économique et social. C'est-à-dire que c'est une économie qui fonctionne très bien, mais pour qui ? Et pourquoi ? On aurait pu faire beaucoup mieux. Kennedy avait commencé à faire des choses intéressantes. Johnson avait commencé à faire des choses intéressantes. Ils avaient suivi en ça la trajectoire de Roosevelt qui était le début de la mise en place d'un État-providence. Donc oui, effectivement, l'économie américaine, elle tourne à plein en général. Mais avec des chiffres du chômage qui sont sous-évalués, avec une pauvreté très importante et très dure, et on l'a vu justement avec Katrina. Tout ça a explosé. C'est-à-dire qu'on a vu la façon dont l'État américain traitait sa population, notamment les plus faibles et notamment les Afro-Américains.
Galbraith parle aussi de la solidité des institutions héritées du New Deal.
Oui.
Pour lui, c'est aussi grâce à cela que l'Amérique a tenu.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand même les États-Unis arrivent à fonctionner encore grâce aux institutions qui ont été mises en place lors du New Deal de Roosevelt et ensuite par l'administration aussi Johnson qui a poursuivi en fait la construction de l'État-providence. Et sans ça, il y aurait effectivement un effondrement social beaucoup plus important. Les États-Unis vivent de cet héritage malgré tout.
Et ce qui est intéressant avec James Galbraith, c'est qu'il n'est pas un critique antilibéral classique, non. Dans le sens où il vante les vertus de la concurrence et il rejette le protectionnisme.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant chez les Galbraith en général, c'est que ce sont des briseurs d'image. Ils n'appartiennent à aucune école de pensée, ce qui les oblige à avoir une certaine exigence intellectuelle. C'est très confortable de se mettre dans une école de pensée. On a un cadre théorique, on n'a plus qu'à s'y glisser, et puis finalement, ça ronronne. Eux, ils se mettent jamais dans ce cadre-là. Donc non, il est effectivement pas du tout anti-concurrence. Par contre, il va expliquer qu'on n'est pas du tout dans une économie libérale, et qu'il faut arrêter, notamment dans les débats publics, quasiment d'utiliser ce mot, parce que ce sont des faux débats. Ces débats ne permettent pas de faire avancer la pensée, de faire avancer tout simplement le débat public, parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est un piège sémantique, en fait.
Dans la troisième partie de l'ouvrage, James Galbraith se propose de combattre les prédateurs. Alors, quelle solution est-ce qu'il préconise ? Il ose, par exemple, proposer la planification, ce qui est un peu un tabou aux États-Unis.
Alors, c'est à la fois un tabou et une réalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des villes qui utilisent la planification écologique. Par exemple, dans l'État de l'Oregon, à Portland, il existe une planification écologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à la fin de son livre, il écrit, vous savez quoi, vous voulez augmenter les salaires, augmentez-les. Vous voulez créer de l'emploi, créez de l'emploi. Vous voulez lutter contre les gaz à effet de serre, passez par la réglementation. Interdisez certains types de pratiques. En fait, ce que Galbraith réhabilite, c'est la réglementation. Plutôt que de passer par des politiques extrêmement complexes en disant, regardez, si j'appuie sur telle manette économique, ça va créer tel type d'emploi, etc. Il dit, allez-y, utilisez les pouvoirs de l'État, utilisez les institutions existantes et faites. En fait, à travers ce livre, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet de libérer l'imaginaire dit de gauche.
Et alors, dans quelle mesure est-ce que ces recettes vous paraissent transposables à la France, Aurore Laluc ?
Elles sont transposables à la France parce qu'en fait, on a le même problème partout. C'est-à-dire que cette espèce d'imaginaire selon lequel il n'y a qu'une façon de faire de la politique économique, c'est réduire les déficits publics et la dette publique, jamais privée, faire de la flexibilisation du marché du travail, privatiser les biens publics, etc. Ça s'applique partout. Partout, il y a une augmentation des inégalités, par exemple. C'est juste qu'en fonction de nos systèmes sociaux, l'impact a été plus ou moins élevé. Donc on pourrait parfaitement, et d'ailleurs c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui par les Gilets jaunes, augmenter les salaires, augmenter le SMIC, plein de choses comme ça, c'est dans le débat partout finalement au niveau mondial.
Je le disais, James Galbraith a conseillé Barack Obama et Bernie Sanders, vous êtes vous-même porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Quel doit être selon lui et selon vous le rôle des économistes dans la cité, Aurore Laluc ?
Eh bien exactement ce qu'il fait dans son livre, c'est-à-dire éclaircir les termes du débat. C'est à mon avis le plus important. Éviter les faux débats. C'est ça qui est génial dans ce livre. C'est-à-dire que avoir des économistes qui donnent à voir la réalité des termes du débat, les vulgarisent, ne nient pas la complexité, mais les exposent simplement, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Parce que quand on fait ça, on a fait 90% du chemin, en fait. Et il y a James Galbraith qui fait ça. Philippe Frémaux fait ça très bien aussi. Jean Gadret fait ça très bien. Il y a plein d'économistes comme ça qui ont cette capacité à retranscrire réellement les termes du débat. Comme ça, après, on peut faire notre choix. Mais on le fait en connaissance de cause, voilà, en comprenant les tenants et les aboutissants.
Je vais revenir un petit peu en arrière, mais il y a deux choses que je voulais vous demander et que j'ai passé un petit peu vite. Galbraith explique notamment pourquoi le monétarisme orthodoxe, qui relie l'inflation à la croissance de la masse monétaire, est une fausse théorie. En quoi rejette-t-il le monétarisme ?
Le monétarisme, c'est une fausse théorie, c'est marrant. Même Friedman, en fait, l'a dit. Milton Friedman, c'était le père du monétarisme. C'est lui qui a eu finalement l'impact en tant qu'économiste le plus fort, à mon sens, pour justifier, pour donner un vernis scientifique à une entreprise qui était fondamentalement politique et idéologique. Et même Friedman avait dit, mais à la fin de sa vie, non, mais ça n'a jamais marché. James cite sa phrase dans ce livre, tout simplement parce que l'économie ne fonctionne pas comme ça. Il y a une réalité, une connexion entre la sphère monétaire, la sphère financière et la sphère réelle. Elles influent toutes les trois, elles sont en interaction. Et oui, toutes les théories, en fait, de l'école de Chicago se sont avérées, en fait, complètement fausses.
Mais en quoi la théorie monétariste était-elle idéologique ? Quelle était l'idéologie ? Quel était le but de cette théorie ?
Le but est d'annihiler toute volonté de régulation. Je pense qu'il y a vraiment ça derrière. Et de dire qu'il faut laisser faire, absolument. C'est une entreprise qui vise à réduire l'imaginaire, réduire en permanence les termes du débat et dire, peu importe ce qu'on fait avec la monnaie et avec la finance, ça aura des conséquences vertueuses si on va dans le sens, évidemment, des néoconservateurs.
Et dernière question, quant à l'équilibre budgétaire, Galbraith estime que c'est une mission impossible et sans intérêt. Oui. Pourquoi cela ?
Quand on parle avec James des déficits publics et de la dette publique, il dit « ce sont des chiffres ». Il y a ce geste avec les mains en l'air, ce sont juste des chiffres. À partir du moment où l'État a un pouvoir de création monétaire, effectivement, ce sont juste des chiffres. Et en fait, ce qu'on note de toute façon, c'est que les crises financières, par exemple, ne viennent jamais des dettes publiques, elles viennent toujours des dettes privées. À chaque fois qu'on a une dette privée conséquente, on peut être à peu près sûr qu'une crise financière va arriver. Donc c'est la dette privée, en fait, qu'il faudrait regarder. D'ailleurs, elle est très élevée en ce moment en Europe. La dette publique, un État, ça ne meurt pas.
Mais l'Argentine a pu faire défaut de paiement en 2001, par exemple.
Oui, mais tout ça, c'est très politique, en fait, très peu économique. Même chose pour la Grèce. Quand on regarde l'état des comptes de la Grèce, c'était pas du tout une dette énorme. Par contre, la réaction politique qu'il y a eu derrière, de fait, elle pouvait faire peur au marché, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais en fait, la monnaie est une institution fondamentalement politique, elle n'est pas qu'économique. Et c'est de la violence et de la confiance. Et c'est aussi la réaction des pouvoirs politiques, c'est aussi les jeux de pouvoirs politiques au niveau mondial qui vont avoir un impact réel sur la dette. Mais quand on est les États-Unis d'Amérique, la dette publique, ce n'est pas forcément du tout le problème. Et en Europe, non plus. Par contre, on a un vrai problème de dette environnementale et c'est là où aujourd'hui où on doit mettre toutes nos forces.
Merci beaucoup, Aurore Lalique.
Merci à vous.
L'État prédateur de James Galbraith est paru au Seuil et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Faut-il donner un prix à la nature ?» écrit avec Jean Gadret, une publication de l'Institut Veblen et des Petits Matins. Un grand merci.